Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bienvenue dans une nouvelle de nos émissions plus proches de vous sur les ondes de Choc FM 105.1. Intégration, éducation, culture, sociabilité et bien d'autres thèmes sont à l'honneur pour découvrir des personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité ici en studio, dans les studios de Choc FM, studio numéro 1. C'est Alexis Maquin qui s'est déplacé ce matin. Alexis Maquin, le nouveau directeur du Club canadien de Toronto. On peut dire le nouveau, même si
tu étais nommé il y a quelques temps. Oui, même si ça fait plusieurs mois déjà, mais on peut dire nouveau en effet.
Ça va bien Alexis?
Très bien, merci encore de m'accueillir ce matin.
Bon matin, c'est un plaisir d'être avec toi, d'apprendre à mieux te connaître. Tu es, j'ai lu ta fiche biographique et fait quelques recherches préliminaires, mais tu es un grand voyageur, en tout cas tu es présenté comme tel par certains de nos confrères.
J'ai voyagé un petit peu, ouais.
Tu as un parcours, je l'espère, inspirant. Et je le disais tout à l'heure, tu es donc le directeur du Club canadien de Toronto, bien connu de nos auditeurs depuis maintenant très longtemps. On va en parler, on va évoquer évidemment le mandat et les objectifs actuels du Club canadien, comment il se situe dans le tissu communautaire francophone, et mettre en avant évidemment vos événements. On parlera de ça tout à l'heure, mais si tu veux bien, pour mieux te connaître et mieux te faire connaître de nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que tu veux commencer par revenir sur tes origines? Je crois que tu es français comme moi.
C'est ça, en effet, l'accent me trompe.
Donc
merci d'abord de m'accueillir. Donc je suis français en effet. Moi, je suis né à Rochefort, 84, donc je vais avoir 40 ans dans à peu près 6 mois. Donc, cheveux blancs, en effet, pousse. Et j'ai même des cheveux blancs sur la barbe. Donc.
Rochefort, ça se situe où?
Rochefort, c'est à côté de La Rochelle. Donc, on est entre Nantes et Bordeaux, sur la côte atlantique. Et pour tous les férus d'histoire, Rochefort, c'est à côté de Hyères-Brouage, qui est le port de départ de Jacques Cartier. On est venu, en effet, découvrir le Québec. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de Québécois qui viennent dans la belle région de la Saintonge et de la Charente-Maritime, pour voir un petit peu et chercher dans les archives. Municipales ou régionales.
Chercher leurs origines.
Leurs origines, en effet. Et ça, c'est super intéressant. J'ai rencontré beaucoup de Québécois. Et le premier contact que j'ai eu avec le Canada, en fait, c'était, j'étais stagiaire, je sais plus en quelle année, je pense que j'étais en fac à l'époque, et j'étais stagiaire de l'association France-Québec. Okay. J'ai fait un petit mémoire avec eux, et c'était mes premiers pas, justement, avec le Québec. Donc très intéressant. Donc peut-être que mon histoire, dès la naissance, m'a apporté, en fin de compte, m'a amené jusqu'ici, je ne sais pas, mais... Donc pour revenir un petit peu aux origines, donc moi j'ai presque 40 ans. Tout à l'heure on en parlait ensemble, j'ai un petit peu voyagé et c'est marrant parce que j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai commencé très tard puisque j'ai fait une licence en histoire à la Rochelle.
Alors on pouvait l'entendre, je pense, dans les premières phrases que tu as prononcées, l'histoire a intérêt particulier à ton cœur. Tu évoquais les origines effectivement de la région et la connexion avec le Québec. Pourquoi avoir étudié l'histoire?
Alors moi, en fait, l'histoire, pour moi, c'était une logique, puisque dès que j'ai toujours été fan d'histoire, en fait.
Ouais,
je me rappelle, quand j'avais 8 ans, j'étais en CM1 ou en CM2, je me disais, je vais faire prof d'histoire. Et c'était l'objectif, en fait, prof à l'université en histoire. Donc pour moi, c'était une... Vraiment, j'ai même pas cherché à faire autre chose. J'ai fait mon baccalauréat en France, donc évidemment, c'est juste après le secondaire. Et directement, je suis allé en faculté en histoire. J'ai fait ma licence d'histoire et je partais pour faire après peut-être le CAPES, donc la certification en enseignement en France. Et au final, je me suis pris juste après cette licence-là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à l'étranger pour enseigner le français, ce qu'on appelle un teaching assistant, en Irlande du Nord, à Belfast. Ça, c'était en 2005. Et ça a été l'année qui a tout changé un petit peu, puisque au final, moi qui étais parti à finir enseignant et partir comme ça pour être sur ancien histoire, ça a tout changé. Et j'ai au final bifurqué et fait totalement autre chose que je jamais pensais faire. Donc au final ça veut bien dire que même si on sait ce qu'on veut faire dès le départ, dès qu'on est jeune, et pourtant Dieu sait qu'il y a plein de monde qui savent pas faire, ils savent pas qu'ils feront demain, eh bien la vie fait que parfois c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, et j'en suis la preuve vivante, parce que j'ai pas pensé du tout un jour habiter à Toronto, être le directeur général du Club canadien. Voilà, donc c'est assez bizarre, et c'était l'histoire qui m'a fait jusque-là, en tout cas, c'est un parcours un peu bizarre. Donc, j'ai fait TA, donc assistant de langue en Irlande.
Alors, excuse-moi de t'interrompre, ouais. Mais pour bien comprendre, tu avais quand même cette envie, ce goût du large de partir travailler un peu à l'étranger en Irlande. Pourquoi le choix de l'Irlande?
Le choix, ça a été c'est pas très compliqué. En gros, c'est ma professeure d'anglais qui était en licence, ouais, qui nous a demandé qui veut partir à l'étranger. Et c'était le British Council, exactement, ouais, ouais, qui en fin de compte qui est l'équivalent de l'éducation nationale en UK, et en gros qui offre un programme pour les Français pour venir en dans les pays du Royaume-Uni, ouais, et enseigner le français en fait. Et l'université de La Rochelle avait du coup un programme, enfin du moins avait un programme qui permettait de pouvoir le faire. Et la prof d'anglais nous demande qui veut le faire et tout. Moi j'étais très mauvais en anglais puisque j'ai eu 7 en anglais au bac, j'ai eu
pour 8, nos, 9 pour nos
quand j'étais en fac. Donc oui, on peut être mauvais en anglais et finir et bien finir aussi. Donc j'étais très mauvais en anglais, tout le monde s'en foutait de moi d'ailleurs.
Et vivre et aller travailler, dans des pays anglophones et finir à
Après, j'ai même d'autres anecdotes, puisque après coup, une fois que je suis parti à l'étranger, je suis revenu, je suis retourné en fac, je retrouvais du coup cette prof, Mme Bonnevin d'ailleurs, si elle m'écoute. Et je passe le bonjour. Et elle-même, elle est fan de jazz et c'est une belle musicienne. Mmh. Et je suis retourné du coup la voir et elle m'a montré devant l'ensemble des classes comme quoi, voilà, un élève qui n'était pas bon à l'origine peut finir avec un anglais qui reste potable et qui lui permet de pouvoir voyager.
Et l'importance des mentors, des professeurs qui vont t'aiguillonner, là, c'est aussi quelque chose qu'on revoit souvent dans cette émission. On trouve toujours des parcours où quelqu'un a changé sa vie radicalement grâce à la rencontre avec effectivement quelqu'un qui va se positionner comme mentor, qui va ouvrir les yeux sur le monde, ouvrir les yeux sur d'autres possibilités qu'on n'avait pas forcément
trouvées. C'est exactement ça, parce que comme je disais tout à l'heure, donc j'étais très mauvais en anglais, mais du coup elle a défendu mon profil, parce qu'en effet il fallait être sélectionné, et elle a vu que il y avait vraiment une motivation derrière. Et à l'époque j'étais avec ma petite amie française, et de plusieurs années, j'ai dit je pars. Voilà. Wow. Du coup j'ai tout claqué et je suis parti, je parlais pas anglais, je suis arrivé dans mon premier pub le soir même à Belfast, je demande un coca, le barman me dit c'est quoi un coca, un Coca-Cola, vous connaissez pas Coca-Cola, Coke, ah là là, enfin voilà, c'est des trucs comme ça qui sont marrants comme anecdote, ça fait plus de 15 ans, ouais. Mais ça m'a marqué de voir que en effet juste sur une prononciation, sur des mots qui pour nous français, tout le monde connaît coca, sauf que quand tu viens dans le UK par exemple, coca c'est pas comme ça on dit.
Avant de marquer une courte pause musicale avec ton premier choix, puisque c'est le principe de l'émission, c'est évidemment ça. Tu t'es plié très gentiment avec une liste de chansons qui dénotent bien de tes origines françaises. mais Alexis, je vais te demander tes premiers souvenirs en Irlande. C'est pas trop complexe justement d'enseigner le français lorsque on n'a pas forcément une très bonne maîtrise de l'anglais. Comment est-ce que ça se passe?
Bon, en fait, donc moi en tant que TA, on est chapeauté par une prof de français du lycée, c'était dans un lycée, et moi j'étais en cours de langue, cours de discussion en fait.
D'accord.
Donc en gros, je servais de personne avec qui les élèves allaient converser, et j'étais là pour vraiment sur la partie orale plus que sur la partie grammaire, orthographe, etc. Donc c'est pour ça que c'était quand même beaucoup plus simple, même si en effet, en fin de compte, c'est marrant, c'est ça aussi forgé comment je suis dans le business où je fais beaucoup de partenariats gagnant-gagnant. Là, c'était à peu près pareil en fait, puisque j'ai donné du coup du français, mais eux, j'ai appris énormément avec mes élèves à l'époque, que ce soit de la culture irlandaise, de la musique irlandaise. J'ai plein d'anecdotes dessus, et en fin de compte, j'apprenais aussi le français évidemment, la culture aussi, mais il y avait aussi un partage dedans, et c'est ça qui était aussi sympa.
Premier choix musical d'Alexis Maca, mon invité dans Plus Proche de Vous ce matin, c'est Michel Sardou avec Il était là, le fauteuil. Pourquoi ce premier choix, Alexis?
Michel Sardou, je pense que si ma famille regarde cette émission, elle va rigoler, parce que Michel Sardou, c'est la star de la famille.
Tu grandis avec Michel?
On a grandi avec Michel. Michel, c'est toute la famille, mais mon père est un fan absolu, toute ma famille côté paternelle est vraiment fan. Évidemment, bah, quand on grandit avec un chanteur, bah, voilà, ça
marque.
Ça marque. Et Michel Sardou, en effet, je suis aussi un grand fan, je connais beaucoup de ses chansons. Et du coup, Le Fauteuil, c'est particulier parce que c'est une chanson qui est, où il y a vraiment des très belles paroles. Et c'est surtout aussi bah, parce qu'il parle de son père.
Ouais. Voilà, donc ça te rappelle ta famille.
C'est exactement, c'est ça.
Allez, quelques notes sur les ondes de choc, Sardou.
Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour. Il était là dans ce fauteuil, premier témoin de mes faux pas, le cœur tremblant comme une feuille, croyant que je ne savais pas. Il était là sur ma galère, lieutenant de la Providence, m'envoyant des ondes légères comme le ciel de sa province. Il était là dans ce fauteuil qu'il a loué pour l'éternité, pour m'applaudir du coin de l'œil et de temps en temps rigoler. Petit, tu m'as fait bien plaisir, tu m'as rappelé ton grand-père. Entre ses larmes et son sourire, il n'y avait pas de frontières. Il était là dans ce fauteuil.
Michel Sardou sur les ondes de Choc FM, le premier choix de mon invité Alexis Macquin. Merci de nous rappeler cette chanson que je n'ai pas écoutée depuis une éternité, Alexis.
C'est un plaisir.
C'est un peu une petite Madeleine de Proust peut-être. Bon, on continue. Alors, on en était dans ton parcours en 2005, si ma mémoire est bonne. Tu pars enseigner en Irlande. Ça change ta vie, ça change l'approche que tu as de ta carrière. Tu t'apprêtais à te lancer dans le professorat, l'enseignement, en histoire. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette première expérience? Qu'est-ce qui fait que tu veux te tourner ensuite davantage vers l'entrepreneuriat?
Alors,
vers,
on n'est pas encore là, ouais.
On n'est pas encore là?
On n'est pas encore là, en fait.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change alors dans ton...
Ce qui change, c'est l'envie de refaire, l'envie d'avoir une nouvelle expérience. En fin de compte, on est piqué, quoi. On est vraiment piqué. Moi, j'ai adoré parce qu'en fin de compte, quand tu étais, donc en Royaume-Uni, c'est un peu comme Erasmus. En fait, j'étais avec énormément de personnes à l'étranger. Il y avait d'ailleurs aussi il y avait des Canadiens qui sont venus pour enseigner le français, donc des Québécois. D'ailleurs, j'ai des amis encore aujourd'hui. À mon mariage, j'avais cinq personnes que j'ai rencontrées en Irlande qui étaient à mon mariage. Donc, ça prouve qu'on forge des liens qui peuvent être vraiment.
Amitiés.
Ouais. Et des vraies amitiés. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment adoré ce voyage-là. Et plus que voyage, j'ai vraiment une expérience. Et après, une fois qu'on a cette expérience là qui est vraiment positive, on a envie de la renouveler et peu importe où ça se trouve, je voulais repartir, ça c'est sûr.
Alors j'ai lu dans ta fiche tu es titulaire de deux maîtrises d'histoire, c'est bien ça?
Alors en fait, j'ai une maîtrise et un DEA, donc un master 1 et un master 2.
Okay.
Et après j'ai un autre master en effet dans un autre
management international,
ouais, c'est ça.
Okay. Quelle était ta spécialité en histoire?
En histoire, alors le premier master c'était sur que j'ai fait à La Rochelle quand je suis rentré justement d'Irlande, j'ai travaillé sur l'Espagne et la guerre civile et les réfugiés espagnols qui ont fui la guerre civile à travers le Pays Basque pour venir à La Rochelle.
Dans les années 30.
Et dans les années 30, en effet, donc, entre 36-39, juste avant la Seconde Guerre mondiale.
La Rochelle
avait beaucoup à ouvrir justement ses portes pour accueillir de nombreux réfugiés et c'est pour ça qu'à La Rochelle, on a aussi des noms encore espagnols.
D'accord.
Parce que les gens sont restés là. En fait.
Est-ce que c'était une volonté délibérée de choisir ce sujet parce que tu avais un intérêt familial ou autre?
Non, j'avais pas d'intérêt personnel ou familial sur la question parce que je suis pas d'origine du tout espagnole.
Ouais.
J'ai fait dans mes deux familles, que ce soit maternelle ou paternelle, ils ont tous fait des recherches justement sur nos racines et j'ai un berrichon vendéen, donc il n'est pas plus français que moi. J'aurais bien voulu avoir un truc un peu plus
exotique,
un Irlandais, je sais pas. Non, pas du tout. Pur 100% français.
Si jamais tu pourrais faire des, le séquençage.
Oui, l'ADN.
L'ADN
avec le pourcentage, et que j'ai un pourcentage en effet d'être 1 ou 2% de, d'Écossais. Ma femme est écossaise, donc on sait jamais. Retour aux sources.
En tout cas, c'est un parcours qui m'intéresse particulièrement à titre personnel, puisque moi aussi je suis historien.
Ça
prouve également que l'histoire mène à tout.
Exactement.
on peut imaginer que c'est une matière, entre guillemets, qui se cantonne effectivement à l'enseignement. Bah, pas du tout.
C'est clair,
des études qui ouvrent l'esprit, qui ouvrent l'esprit sur le monde. Et qui,
mais moi, j'ai beaucoup de monde qui était dans mes dans mon cursus, qui ont fini journaliste, entre parenthèses, et mais vraiment qui ont fini dans d'entrepreneurs ou autre chose. Donc c'est vraiment, en effet, je pense que l'histoire nous permet d'avoir une ouverture d'esprit et aussi un esprit critique aussi, et avoir une culture aussi générale importante qui dans nos, même aujourd'hui, qui me sert d'ailleurs, entre parenthèses, cette ouverture d'esprit là et cette culture générale que j'ai me permet d'avoir, de parler avec plusieurs personnes de sujets vraiment totalement différents. Et je suis très généraliste, en fait, voilà, j'arrive à pouvoir parler un peu de tout, pas d'expertise particulière, je pense, mais vraiment un côté généraliste, un petit peu comme un médecin généraliste, en fait, qui doit voir un peu de tout.
C'est ça, c'est le côté humain qui prédomine aussi.
C'est ça, exactement.
C'est très important. Poursuivons dans ton parcours, Alexis. On est à Belfast en 2005. Tu rentres en France. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Ouais, je rentre en France, donc je fais cette première année de master sur les Espagnols. Et directement, pendant que je fais ça, je cherche à repartir à l'étranger. J'ai pas beaucoup d'argent puisque je paye toutes mes études et je suis boursier. Et moi, mon idée, à chaque fois, c'est de partir via des échanges internationaux que mon université a. Et j'obtiens une bourse CREPUC. Une bourse CREPUC, c'est une bourse de partenariat avec la France et le Québec. Et je pars à l'UQAM en 2007-2008.
Okay.
Je serai à l'UQAM pour finir mon deuxième année de master. Et je suis à la chaire de recherche sur la question territoriale autochtone et sous l'égide de Alain Beaulieu, qui est un spécialiste de l'histoire autochtone au Québec. Et du coup, je fais avec lui, je fais mon deuxième mémoire.
Okay.
Et où je ferai aussi 3 conférences étudiantes, dont une à York University. Je pensais pas un jour repartir et revoir le campus bien des années plus tard.
C'est amusant parfois, hein, comme
la vie, le destin. Mais incroyable.
Le Canada a croisé, j'ai l'impression, ton chemin à plusieurs reprises.
Mais c'est ça. En 2008. Ouais. Et 15 ans plus tard, vous voyez, tout à l'heure, en fait, je repars justement, je vais à York University pour une conférence, justement.
Ouais.
Et voilà, c'est marrant qu'on voit. Pour moi, la vie, c'est vraiment un puzzle, en fait. Il y a plein de petites pièces que l'on crée au fur et à mesure de notre vie. Et à un moment donné, ça a du sens. Pendant très longtemps, ça n'a pas de sens parce que on a un peu des pièces-là sont un peu éparpillées partout. Et quand on les met ensemble et qu'on voit un petit peu la grande image, on voit, maintenant je comprends pourquoi j'ai fait tout ça, en fait. Là, c'est ça.
Quand tu te retrouves sur le territoire canadien, est-ce que tu tombes en amour avec le pays
aussi, bien évidemment. Ouais, moi, je tombe en amour évidemment avec le Québec, avec le Canada. Mais c'est vrai qu'en tant que Français, pour nous, le Canada, c'est le Québec avant tout.
Dans l'imaginaire, en tout cas.
Dans l'imaginaire, ouais. Mais là, encore une fois, je rappelle, c'est en 2008, j'ai que des Québécois et tous les Québécois me disent Toronto n'y va pas, c'est nul.
Ouais.
C'est une ville où il n'y a pas de vie la nuit, pas pour un étudiant, c'est nul. Enfin, vraiment, c'est dépité comme pas une belle ville, en fait.
C'est l'image que traîne Toronto depuis beaucoup de temps, mais
exactement,
qui évidemment avait évolué. Je pense qu'en 2008, Toronto était déjà une ville vivante et dynamique
sur bien des
aspects. Mais il y a toujours cette rivalité, évidemment, entre Montréal et Toronto.
Et en plus, souvent, les Québécois qui vous disent ça sont jamais allés à Toronto.
Exactement.
Souvent, en plus. Donc,
vivent sur de vieux présupposés.
C'est ça.
On va marquer une seconde pause pour évoquer un petit peu l'ailleurs, le voyage, et c'est Jean-Jacques Goldman que tu as sélectionné là-bas.
Ouais.
Quelques mots sur ce titre.
Écoute, c'est un titre qui me rappelle, en fait, mon départ justement au Canada, parce que j'étais toujours avec mon petit ami française, et c'est elle, en fait, qui m'a fait écouter ce titre-là, parce que ça lui rappelait justement le fait que je parte, parce que dans ce titre-là de Jean-Jacques Goldman, il évoque en effet son départ, et c'est le départ au Canada, et c'est vrai que, en effet, je quitte tout pour aller au Canada encore une fois. Et pour elle, c'était vraiment un sentiment d'un break-up, en fait, vraiment d'une rupture, en fait, et ça lui a fait très très mal. Et alors que pour moi, je vivais ça comme une aventure, j'avais envie de partir, etc. On plaque tout, et les paroles, en effet, sont vraiment me parlent beaucoup, en fait.
Allez, un classique sorti en 1987, si ma mémoire est bonne, c'est Là-bas, Jean-Jacques Goldman. Quelques notes sur Choc.
Thank you. là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas.
Sourire Alexis en écoutant les paroles de là-bas, Jean-Jacques ouais. Goldman, tout est possible. C'était la vision que tu avais lorsque tu mets les voiles, lorsque tu repars à l'aventure.
Ouais, il y a tout est possible, mais surtout en fait, j'avais une hantise, et pourtant j'avais pas beaucoup d'hantise, mais la hantise que j'avais en fait à l'époque, quand j'avais 20 ans, c'était de me dire, je vais pas me réveiller à 40 ans, et maintenant que je t'ai dit, je vais avoir 40 ans dans 6 mois, c'est marrant, je me rappelle ça.
Le temps file.
Je voulais pas me réveiller à 40 ans et me dire, j'ai rien vécu en fait.
Ouais,
tu
ouais.
vois, je suis pas parti. J'ai pas profité ce que j'avais l'impression à l'époque quand j'étais en licence ou en DUG, donc en bac plus 2 en France, mes années universitaires, de pas avoir profité de la vie. J'avais toujours ma copine, je faisais mes études, je sortais pas énormément non plus. J'avais vraiment l'impression de me dire, je loupe quelque chose en fait.
Ouais,
parce qu'on
ouais.
me dit souvent, les meilleures années, c'est les années d'études en fait. J'avais l'impression de me dire, mais je fais rien en fait, je comprends pas quoi. Et je me disais, je peux pas partir et à me réveiller à 40 ans prof d'histoire à Paris et c'est pas ma vie en fait.
Ouais,
et du coup, en fait, je dis, il fallait que je parte, il fallait que je fasse quelque chose et je suis parti et du coup maintenant je suis ici.
Et j'espère que tu as un sentiment de complétude maintenant.
Ouais,
que tu as fait toutes
ces expériences-là. Complétude, je sais pas, mais en tout cas je suis content de ce que j'ai fait.
Ouais.
Ça a rien du tout à voir avec ce que je pensais, mais ça c'est ma vie quoi qu'il arrive parce que j'ai jamais tous les plans que j'ai fait ça n'a pas marché. Donc à un moment donné je me dis écoute on va avec le flow et on va voir ce qui va se passer quoi.
Alors c'est deux choses intéressantes. D'abord tous les plans que j'ai fait ça n'a pas marché. Ça nous donne cette idée de persévérance
ouais.
qui est, je pense, un enseignement très important, surtout quand on est entrepreneur.
Ouais,
on dit souvent qu'on mesure le succès d'un entrepreneur au nombre d'échecs qu'il a, auxquels il a fait face auparavant, au nombre de portes qui se sont fermées, au nombre de faillites.
Ouais, ouais.
Ça, c'est très important. Et puis effectivement, cette volonté de voyager pour découvrir le monde, cette soif de découvrir, on la retrouve chez beaucoup d'immigrants ici
ouais.
à Toronto qui ont décidé effectivement, parfois dans la douleur, de lâcher un petit peu
bien
tout,
sûr, ouais.
famille, amis, et beaucoup de peut-être aussi appartement, travail et d'autres choses pour partir à l'aventure et aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas.
C'est ça, l'inconnu.
L'inconnu,
ouais.
mais
ouais.
en fait, effectivement, on peut imaginer que tout est mieux.
Exactement, de toute façon, c'est ça.
On est en quête d'un Eldorado.
Voilà, de toute façon, il faut avoir cet esprit positif, hein, parce que si on part quelque part et on va dire que ça va être moins bien que là où on est, on part pas en fait.
C'est ça.
Mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout, de le faire, et surtout en fait, c'est pas donné à tout le monde non plus. Il faut se dire déjà, je pense que toutes les personnes qui viennent, que ce soit au Canada ou ailleurs, qui prennent le pas et de partir et de quitter, c'est déjà, ça veut dire bravo déjà. Je pense que c'est important de se dire bravo en fait. On se le dit pas assez souvent, voilà, t'as fait du bon boulot, t'es parti, c'est pas donné à tout le monde, tu prends un risque et rien que le fait de prendre un risque comme l'entrepreneuriat, bravo. Faut pas se dire je vais me planter, etc. Non, non, déjà, faut déjà se féliciter. C'est comme le bonheur, faut se dire je suis content, je suis heureux. C'est pareil quand on fait quelque chose, voilà, faut se dire positif. C'est pas de dire j'ai envie de me. C'est pas de l'ego, se flatter l'ego, c'est
ouais.
vraiment, c'est interne à soi, de dire ok, là, c'est du bon travail ce que t'as fait. Ça veut pas dire que t'as réussi, mais au moins c'est dire que t'as fait quelque chose de bien, il faut se le dire.
On évoquait ton goût pour l'histoire, ta passion pour l'histoire et les études qui allaient avec. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu voulais faire autre chose? Le management international, c'est arrivé dans un deuxième temps?
Ouais, dans un deuxième temps, en effet, je suis parti aux États-Unis juste après au Canada. Je suis parti enseigner là-bas, donc via le programme Fulbright, encore un nouveau programme d'ailleurs, qui est un vieux programme hein, qui a été créé juste après la guerre par le sénateur Fulbright américain.
Ouais.
Et justement, justement qui promeut les échanges entre les États-Unis et le reste du monde. C'est un programme qui est très prestigieux en France, enfin aux États-Unis. Et du coup, j'ai eu ce programme-là. Je suis parti en Géorgie enseigner français. Là, c'était un vrai enseignement. Par contre, j'avais en charge, donc en fac, ouais. Berklee College.
Okay.
Et j'avais deux classes où j'avais en charge justement de leur enseigner le français. Donc, je parlais évidemment mieux anglais déjà. C'est déjà mieux. Et c'est un peu plus simple. Et en fin de compte, à l'issue de cette année, j'avais deux choix, soit de repartir dans l'histoire et faire mon doctorat. Mais je me suis cassé un peu les dents avec ce doctorat-là parce que je voulais travailler en doctorat. Quand on est en histoire, il faut travailler dans un programme de recherche.
La recherche, ouais.
Et il faut avoir le bon sujet, il faut avoir la bonne université. Et quand, a priori, moi, ce que j'ai eu au cas, c'est que quand on n'est pas parisien, on n'est pas dans ce circuit parisien, bah, du coup, on n'est pas toujours les bienvenus. Et je me suis du coup cassé les dents sur plusieurs programmes de recherche sur ouais. Paris parce ouais. que j'avais pas fait mes études sur Paris. Et en même temps, donc ça aussi en parallèle, je me suis dit, écoute, si je fais un doctorat, j'en ai au moins pour 4 ans. Là, à l'époque, j'avais 24 ans. Je me dis, je vais sortir à 28 ans et je serai peut-être au chômage encore. Et est-ce que ça vaut le coup, en fait? Du coup, je me suis dit, bah, si je fais pas ça, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai qu'avec simplement avec un master en histoire, c'est un peu compliqué de faire autre chose. Et je me suis dit, bah, j'ai pris un papier, un crayon. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, deux colonnes. Et j'ai mis un petit peu tout ce que je pouvais faire, tout ce que je voulais faire. Je suis pas bon en maths. Ok, ça c'est d'accord. J'aime pas les sciences. Ok, ça c'est d'accord. Par contre, qu'est-ce que j'aime? Bah, j'aime parler anglais. J'aime être à l'étranger. J'étais capitaine de mes équipes de foot. Donc, j'aime un peu management et tout. Bah, écoute, management international, je suis allé sur Internet. Ok, j'aurais des différents programmes. Ouais. J'avais un à Bordeaux qui coûte pas cher. C'est l'IAE de Bordeaux. Ça coûte 500 euros. Allez, banco. Du coup, je suis rentré en France et j'ai fait 2 ans de l'IAE de Bordeaux avec, encore une fois, dès que je suis arrivé à l'IAE de Bordeaux, j'ai demandé, on fait des échanges? Oui, d'accord. Bah, je suis parti la première année, je suis parti en Belgique. La deuxième année, je suis parti au Pérou. Et tout ça, en fait, voilà, c'était via des échanges. Donc, j'ai pas payé plus. Donc, on peut partir quand on est étudiant, bah, quasiment gratuitement. Faut simplement travailler à côté et tout, ouais, évidemment. Ouais. Mais voilà, j'ai pas payé plus. Et j'ai jamais demandé de l'argent à mes parents. Et j'ai toujours payé tout seul. Et au final, j'ai beaucoup voyagé avec et grâce du coup à ces échanges internationaux. J'ai profité un maximum, en fait. Voilà.
C'est assez fascinant de t'écouter, d'écouter le processus résumé en quelques mots de ton changement de cap.
Changement, oui.
Et ça prouve que, bah, on dit parfois que la formule tout est possible, c'est peut-être un petit peu galvaudé, mais beaucoup de choses sont possibles, en tout cas, lorsqu'on se prend en main, lorsqu'on réfléchit sur soi-même, ouais. effectivement, ce travail d'introspection-là, et pas forcément avec beaucoup de moyens, on peut arriver effectivement à transformer sa vie durablement et à trouver une voie qu'on n'avait pas forcément entrevue auparavant. Exactement. Ton goût pour l'international, effectivement, elle est très bien avec, avec ces études-là. Et un mot, quelques souvenirs là, de ces études à Bordeaux, de ces rencontres, de ces voyages. Pérou, c'est quelque chose d'un peu exotique, j'allais dire.
Ouais,
tu parlais espagnol, tu avais une
Alors j'avais des bases espagnoles du lycée, donc ça remontait à très très loin. J'ai dû travailler avant de partir.
C'est une prise de risque, tu te mets hors de ta zone de confort,
là,
vraiment.
Ouais, bah, en fait, c'était un peu le principe aussi. J'avais le choix entre le Pérou et l'Inde. Wow. Du coup, j'ai pris le Pérou pour mettre un petit peu plus en difficulté pour parler justement notre langue. L'avantage que j'avais, c'était un programme de MBA que j'ai fait là-bas. Du coup, il y avait aussi de l'anglais.
Okay.
Donc, c'était de l'anglais espagnol. Donc, je ne me rappelle plus trop, mais je pense qu'on pouvait rédiger aussi nos essais en anglais. Donc, il y avait cette partie-là qui était aussi importante. Et le fait aussi d'avoir un programme MBA était vraiment m'a aussi convaincu d'aller au Pérou parce que c'est vrai que ça apporte quelque chose sur le papier. Même si je n'ai pas le MBA en tant que tel, en tant que diplôme,
ouais.
j'ai fait tout un semestre en MBA qui m'a aussi ouvert des portes et m'a apporté pas mal de choses aussi en tant que personne, évidemment.
Et ce goût de l'entrepreneuriat, ce goût de partir encore une fois à l'aventure, mais dans la sphère professionnelle, ouais. de partir d'une feuille blanche peut-être, ça t'est venu à ce moment-là?
Non, ça s'est fait vraiment un petit peu au hasard. En gros, l'entrepreneuriat s'est fait au fur et à mesure. D'abord, j'étais business developer pour des sociétés, que ce soit à Chicago, parce que j'ai fait un VIE à Chicago pour vendre des bières françaises.
Oh, alors attends, on est au Pérou, maintenant on part à Chicago. Tu dis que t'as un petit peu voyagé là, ça fait quand même déjà pas mal de pays qu'on traverse.
Ça fait beaucoup, ouais. En fait, bah, c'est simple, je suis parti du Pérou. Alors, bon, allez, si on fait dans le détail, en fait, j'étais au Pérou, je finissais ce master avec ce programme MBA et en même temps, je cherchais un stage.
Ouais.
Et le désavantage des IAE, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, enfin à l'époque du moins, il y a 10 ans de ça, donc casser du sucre sur le dos d'IAE. Mais la plupart des élèves qui étaient avec moi, les étudiants qui étaient avec moi, venaient des grandes écoles de Paris ou de Lille. Et j'ai profité de leurs accès sur les stages pour trouver un stage qui s'est transformé à la fin en tant que VIE.
Ouais.
C'était une association qui cherchait du coup quelqu'un pour développer le secteur de la bière à Chicago. Du coup, je suis allé en Belgique, parce que c'était basé en Belgique. J'ai fait 6 mois en Belgique, et après, je suis allé à Chicago. Donc, la Belgique aussi est dans mon cœur, parce que j'ai fait à Anvers et Bruxelles, et avant de partir après à Chicago pendant plus d'un an.
Évidemment, la Belgique, pays expert en matière de bière. Tu me dis que développer le secteur de la bière à Chicago, ça veut dire qu'il n'y avait pas véritablement d'industrie
Alors, il y a une grosse industrie de la bière, sauf que la France n'est pas connue pour la bière. Ouais. Donc ça, c'est une grande problématique. En fin de compte, je représentais 9 brasseries françaises, dont 4 étaient dans le nord et l'est de la France. Mm-hmm. J'avais aussi la bière de la Corse. J'ai oublié le nom, évidemment.
On n'a pas besoin de citer de nom. Ouais, c'est évidemment, ça. On va dire qu'on consomme l'alcool avec modération, d'habitude.
Évidemment. Enfin bref, du coup, j'avais 9 brasseries, 50 marques à vendre. Et là-bas, on fait face à toute la concurrence de craft beer américaine, tout ce qui est Bud Light, ou après toutes les bières belges, mais aussi les bières allemandes, autrichiennes,
Des goûts, espagnoles. Des styles de bières qui sont très différents aussi.
Voilà, donc il y avait vraiment il y a pléthore de choix, et du coup il y a un gros travail à faire, et on a essayé de travailler, on a bien travaillé. La difficulté qu'on a eu après pour renouveler, c'est que le visa ne nous permettait pas d'être renouvelé, ce qui a fait que j'ai dû partir des États-Unis.
Tu te sentais à l'aise dans ces bottes d'entrepreneur pour aller vendre un produit comme une bière française dans une terre où il y a effectivement une grosse concurrence internationale.
C'est clair. Bon, en fait, je pense que cette expérience-là a marqué justement le parcours que j'aurai après, parce qu'en fin de compte, j'ai toujours été dans ces postes où il fallait défricher, t'es tout seul et tu prends un ordinateur et t'es parti. Et j'ai fait ça beaucoup dans beaucoup de mes parcours professionnels. J'ai souvent été seul à travailler, à aller chercher, et que ce soit partir à l'étranger en temps pour étudier ou pour travailler. Au final, à chaque fois, j'ai dû trouver des solutions externes pour faire mon petit chemin. Et Chicago, c'était comme ça. À Toronto, quand je suis rentré, après je suis venu à Toronto, c'est pareil, c'était aussi un parcours de ce qu'on appelle des chasseurs, en fait. Souvent, dans le commercial, on a soit un chasseur, soit un cueilleur. Souvent, moi, j'étais pris en tant que chasseur pour aller justement développer le portefeuille, développer les clients, aller chercher plus de clients, etc.
Arrêtons-nous 2 minutes sur ta première rencontre avec la ville Rennes. À Toronto, tu arrives en 2014, c'est ça?
Ouais, 2014.
Et c'est dans le cadre de quelle industrie que tu pars travailler à Toronto?
Alors en fait zéro. Au départ, quand je rentre de Chicago en fin 2013, je veux repartir tout de suite à Chicago. Je loupe un poste dans le Minnesota et je me dis, dans ce cas-là, si je peux pas aller au Minnesota, je vais retourner au Canada. Donc je demande un PVT pour une vacance travail 2 fois que j'ai pas. Du coup, je me dis à un moment donné, si je l'ai pas, je vais aller tout seul. Ce qui fait que je prends un billet d'avion où je me donne 2 mois avec un peu d'économie et j'arrive. Ça, c'est en début avril 2014 à Montréal, où je passe une semaine chez une amie. Je me dis, parce que je voulais m'installer d'abord à Montréal, et au bout d'une semaine je me dis, c'est pas là où il faut que je sois, parce que mon français ne va pas m'apporter quelque chose. Tout le monde est français, tout le monde est francophone au Québec, donc ça sert à rien. En fait, ce que je fais, du coup, je prends un bus et je vais je connaissais une personne à Toronto, genre c'est chez elle 2 nuits, je pense. C'était largement suffisant, puisqu'on s'est plus parlé après coup. Et du coup,
c'est
je
ça,
prends
c'est
une voilà c'est ça et je prends une petite chambre, et pendant 2 mois je me consacre à aller trouver un travail, surtout en fin de compte, trouver un travail qui va me sponsoriser, parce que je n'avais pas de visa en fait.
J'avais pas de travail, rien. Difficultés de ma vie. Difficultés
supplémentaires.
Là aussi, ton parcours résonne avec le mien, parce que moi je suis arrivé un petit peu plus tard en 2015, mais moi aussi sans visa, en tant que touriste, et c'est vrai que c'est.
Faut pas dire l'immigration, ça.
Là aussi, exactement, mais maintenant la prescription, je pense. Mais là aussi, c'est effectivement un peu compliqué, c'est vraiment l'aventure, et on sait pas de quoi l'endroit va être fait. Tu te voyais pas revenir en France, j'imagine, à ce stade-là.
Non, parce que là j'étais plus que piqué. Tout à l'heure, on disait en 2005, c'est ma première piqûre. Là, j'étais plus que piqué. Je voulais vraiment, quoi qu'il arrive, vivre à l'étranger et le Canada. Et je me suis dit, j'avais deux mois d'économie. Et à la fin du un mois et demi, j'ai trouvé une entreprise qui m'a fait confiance. Et c'est là justement où je développe leur activité. C'était dans tout ce qui est landscaping. Et en fait, je vends du sable. Donc là, c'est là où je me dis, je peux vendre tout parce que j'ai vendu du sable.
Voilà. L'expression vendre du sable dans le désert.
Exactement, c'est ça, je l'ai fait en fait. Donc du coup, ça fait rigoler beaucoup de gens, mais c'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup aidé, d'une pour rester au Canada déjà, parce que ça m'a permis aussi derrière de pouvoir faire ma résidence permanente. Et c'est aussi mon expérience qui s'est, la seule expérience qui s'est vraiment mal finie, puisque j'ai été licencié sur Skype. Donc sur Skype, un lundi matin, alors après une réunion hebdomadaire, on me dit, Alexis, reste là et tout. Je me rappelle encore de la phrase que mon CEO me dit, we're gonna let you go. Ok, on va te laisser partir.
Ok,
on laisse partir. partir, t'as, j'ai eu 2 semaines, voilà, tu plies le bagage et c'est fini. Et là,
j'avais avec pas encore fait la démarche de RP.
Non, rien et tout, j'avais que 2 semaines et c'est fini. Merci,
à l'américaine.
À l'américaine. Ouais. Et du coup, en fait, ça te forge aussi parce que tu te dis, bah voilà, en fait, on se plaint beaucoup en France, mais le salarié, il est tellement en France, il est tellement protégé. Bah là, en fin de compte, quand on vit en Amérique du Nord, on se dit c'est super beau, etc. Bah tu as aussi, tu as les bons côtés, mais ça, c'est aussi le mauvais côté. Mais tu peux pas te plaindre à un moment donné. Quand tu vas à l'étranger, tu prends les bons et les mauvais côtés. Et bah là, j'ai pris le mauvais côté aussi. Bah ça m'a fait grandir, puisque après, bah j'ai dû me démerder pour aller chercher un autre permis de travail avec une autre entreprise. Et là, encore une fois, super compliqué aussi, parce que chercher encore un travail où t'es pas, faut que tu cherches un sponsor.
Un sponsor, c'est plus complexe. Hein,
encore,
c'est
encore compliqué. Complexe. Et là, je finis dans une école en tant que directeur marketing. Ça, c'est en 2016. Et fin 2016, j'ai ma demande de résidence permanente qui est acceptée.
Ouf. Et ouf, c'est ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui tranquillise un petit peu, parce que vivre dans le stress, c'est permanent, c'est très difficile. C'est ça, ouais. Beaucoup des auditeurs, je pense, peuvent là aussi. Voilà, le parcours résonne avec beaucoup de parcours qu'on a déjà rencontrés dans l'émission. Mais c'est assez intéressant de voir que tu n'as pas baissé les bras, tu t'es réinventé à plusieurs reprises.
J'ai même eu ma demande de RP qui a été refusée aussi. Ça. Et ça, j'en ai pleuré même. J'en rappelle encore, ça m'a aidé. J'en ai pleuré parce que c'était tellement. Tu sais, de commencer, ça prend beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, etc. Et en plus, c'est bien d'avoir voyagé. Et quand tu voyages, quand tu fais ta demande de RP, bah derrière, il faut récupérer un ensemble de données partout. Où est-ce que tu es allé, à l'étranger, etc. C'est moi qui ai vécu aux États-Unis, j'ai dû demander au FBI de m'envoyer un document qui n'est pas arrivé à temps. Coup, je ne l'envoie pas. Refusé. Et à la fin, je me dis, ben, là, je me rappelle au mois de mai, c'est en mai 2016, je me dis, ben, je ne le refais pas, quoi. Je pars en France. J'étais tellement vexé de ne pas l'avoir eu.
On n'imagine même pas que
ça peut
aboutir.
Ouais. Ah non, c'est clair. Et bah, après coup, évidemment, on se remet dedans et je l'ai refait. Et c'est vrai que j'étais vraiment très vexé. Je me dis, ben, là, c'est pas possible. Trop de barrières, on arrête tout. Mais voilà.
On va revenir, Alexis, vers évidemment l'entrepreneuriat juste après. Mais une question que j'ai oublié de te poser, toi qui as beaucoup voyagé, qui as enseigné, qui a été des deux côtés de la barrière, entre guillemets, en tant que d'abord qu'étudiant, et puis ensuite en tant qu'enseignant à l'international dans plein de pays. On l'a vu dans le secondaire, à l'universitaire. Mais nos auditeurs, je pense, ça les intéresserait d'avoir ton point de vue sur les différences fondamentales que tu as observées dans les modes d'enseignement dans ces différents pays. Et puis. Et par rapport au Canada, évidemment, ce que tu en connais.
Ouais. Bah, la plus grande différence, c'est vraiment, et ça se voit même culturellement quand les personnes sont plus âgées, la grande différence, c'est qu'en France, on n'est pas sur le côté positif, en fait. On est vraiment plus sur le côté négatif. Mais même la langue française est faite comme ça, en fait. Comment ça va ? Pas mal. Ouais, et le fait de dire pas mal veut dire, bah, je suis pas bien, mais je suis pas mal. Mm-hmm. En fait, on va mettre ce côté négatif. Et en fait, dans la partie de l'enseignement, c'est à peu près pareil. Quand on va dire à quelqu'un, mais non, c'est pas fait quelque chose de bien, t'as fait quelque chose de pas mal.
Ouais.
On va garder ça en tête. À l'instar, au contraire, au Canada, c'est bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait, mais tu peux t'améliorer sur tel ou tel point, ou tel point, tel point. Comme toi, tu as dû avoir ces expériences là où que ce soit en primaire, secondaire ou en fac, bah, très souvent on va insister sur les points négatifs, alors que en côté Amérique du Nord, on va insister sur le point positif pour renforcer la confiance en soi, pour renforcer justement les acquis, et après on va pouvoir travailler sur les non-acquis en fait. Bon, en France, c'est le contraire, on va d'abord travailler sur les non-acquis alors qu'on va parler du positif, et culturellement on est vraiment dans ce schéma là, dans ce cadre là, on va parler toujours comme ça en fait. On va toujours parler dans le schéma, d'abord on va parler du négatif avant de parler, mais même aujourd'hui dans le monde de la corporation, on parle beaucoup. Quand on fait du management, on parle beaucoup aussi en France, bah ça faut faire mieux, ça faut faire mieux, ça faut faire mieux. Ouais, mais attends, tu me dis pas ce que j'ai fait super bien, va renforcer ma confiance en moi. Et cette confiance là, quand on est 20 ans, 15 ans ou 40 ans, on a besoin de ça. Moi, j'étais manager, j'ai managé jusqu'à 30 personnes, et les gens, ils ont besoin d'entendre, tu sais quoi, ça c'est bien.
Évidemment.
Il n'y a rien de pire pour un manager, parce qu'un entrepreneur, c'est si un manager, de dire, ouais, tout est mauvais en fait. Non, va renforcer ce qui a été bien, et on pourra parler après aussi de ce que tu n'as pas bien fait. Mais va dire d'abord, que tu as fait, c'est super. Félicitations. Même si ce n'est pas grand chose, ce mot, dire, tu as bien fait les choses, même si c'est pas grand chose à la fin, bah, les gens, ils vont dire, on m'a renforcé ma confiance, ça, c'est top.
Et l'éducation façonne toute appréhension du monde et de la réalité, effectivement, bien qui sûr, va jusqu'à l'entreprise. C'était le cas aussi dans l'observation que tu as pu en faire dans l'enseignement en Irlande, oui, dans d'autres pays.
Bah, c'est là où j'ai appris, justement, ça, j'ai appris ça, en fait. Quand tu arrives à 20 ans, 21 ans, tu n'as pas encore fait de stage. J'ai fait un stage simplement en enseignement et tu n'as pas encore ce cadre-là, en fait. Et après, il y a aussi une partie humaine, la partie intrinsèque de ta personnalité qui peut t'aider aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des retours de mes mentors qui étaient dans le département français, ouais, qui disaient, ah, non, mais quand toi, tu vas parler, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Tu ne vas pas dire, ça, c'est pas bon. Tu vois, moi, j'ai fait pleurer des élèves déjà. Et je me dis, bah, attends, si eux, ils pleurent, est-ce que c'est moi, est-ce qu'ils sont trop sensibles ou c'est moi qui ai mal dit les choses, qui ouais, ai mal interprété, etc. Il faut aussi se remettre en cause. La remise en cause, en fin de compte, est super importante. C'est comme en France, en français, on dit souvent, on va dire quelque chose, oui, mais, le fameux oui, mais. Ouais, mais arrête de dire oui, mais. Dis, accepte que tu as tort. Et en fin de compte, c'est mes premières années où j'ai petit à petit appris à avoir tort. Mais une fois que tu apprends à avoir tort, tu te dis, c'est là où tu apprends aussi à te connaître et demain à être amélioré en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne aussi. Parce qu'il faut apprendre à avoir tort pour se dire, si on apprend ses erreurs, bah, on sera meilleur après. Mais pour apprendre ses erreurs, faut-il les reconnaître encore. Et on part de là, en fait. Et c'est vrai, du coup, l'Irlande m'a façonné aussi, mais pas que l'Irlande, c'est tous les points où j'ai été, même quand j'étais à Berklee College aux États-Unis, on m'a aussi cadré dessus. Même mon CEO à Environment à Toronto, avec le oui mais, moi j'ai une anecdote sur ça. J'étais dans sa voiture, on partait donc faire un mariage. Donc on était devenus amis un petit peu avec mon CEO, on était une petite entreprise. Même si tu vas dans mode social, t'es toujours en train de travailler, en fait. Et ils me disent que t'as, je monte dans la voiture et ils me disent que t'as tes cartes de visite. Ben, je dis bah non, enfin en mode c'est pas, on travaille pas quoi. Et là du coup il est en train de m'engueuler. Ouais. Je dis, putain. Ouais. Et là je dis oui mais, et on parle et je dis oui, j'essaie de me justifier un petit peu, quoi. Ouais. Et il me dit, textuellement, il me dit, écoute, tu me dis encore oui mais une seule fois, je te vire. Et je savais qu'avec lui, c'était vraiment vrai. Ben, écoute, c'est simple, j'ai plus dit oui mais, en fait. Ouais. Tu vois, et tu l'apprends comme ça, en fait. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça où j'ai des gens qui m'ont dit à un moment donné, voilà comment ça se passe. Et si t'apprends, bah, après tu changes.
On marque une nouvelle pause musicale après ce passage intéressant là sur la question de l'appréhension du monde à travers la vision qu'on en a, effectivement, positive ou négative. Le verre à moitié vide ou à moitié plein, entre guillemets, c'est presque à ça que ça se résume. Même si peut-être que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, les méthodes managériales anglo-saxonnes prédominent et on espère en tout cas que appréhender les points positifs pour s'améliorer plutôt que d'appuyer sur le négatif, c'est ce que l'on souhaite. Tu as choisi pour nous Garou, Notre-Dame de Paris, avec Belle. On repart au Canada, même si on est aussi un peu à Paris. Quelques mots sur ce choix, Alexis.
Bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que toutes ces chansons reparlent un peu de mon père et tout. En fait, cette chanson-là, à l'époque, donc, elle est sortie en fin années 90, début 2000. Et en fait, mon père, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré sur une cassette audio, sur les deux faces, la même chanson, tout le temps, en boucle. Et quand, à l'époque, mon père, donc mes parents étaient divorcés, et à chaque fois qu'il venait nous voir, bah, du coup, il mettait la musique. Et pendant, on avait une heure de trajet, pendant une heure, on écoutait la même chanson en boucle. J'ai jamais... au départ, on était bien, c'est sympa, mais quand tu écoutes en boucle tout le temps Belle, bah, à la fin, tu connais toutes les paroles et du coup, ça te marque. Et là, en fin de compte, c'est pour ça que c'était marrant, parce que cette chanson-là m'a toujours marqué, parce que bah, j'ai l'impression de voir une longue ligne droite dans la voiture et quand j'écoute ça.
Allez, on a écouté quelques notes, même si tu l'as beaucoup écouté. On ne s'en lasse pas, la voix de Garou sur Choc avec Belle. Oh, laissez-moi. Esmeralda Garou, Notre-Dame de Paris, vous êtes toujours dans Plus proche de vous, émission consacrée à mon invité du jour, Alexis Maquin, directeur aujourd'hui du Club canadien de Toronto. On s'en va tout doucement, mais j'aimerais bien qu'on parle davantage maintenant de tes nouvelles fonctions, Alexis. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous rappeler dans quel contexte tu as pris ces fonctions et quelle est ta vision pour l'avenir du Club canadien de Toronto?
Le contexte dans lequel j'ai pris mes fonctions, c'était au mois de mai dernier, donc le 1er mai. Donc le club canadien avec Richard Kemploch avait un mandat de 5 ans, enfin de moins travaillé pendant 5 ans en tant que directeur du club. Donc il cherchait quelqu'un d'autre pour le remplacer et on m'a demandé de postuler parce que peut-être qu'il y avait une vision derrière qui on pensait que j'avais peut-être les épaules pour le faire. Au départ, je me suis demandé pourquoi. Et après, je me dis, bon, bah, pourquoi pas chercher un travail, ce que j'avais ma société, mais que je n'avais pas trop développé, que j'étais un peu fatigué et tout, et j'avais envie de repartir sur un côté un peu salarié. Et je me dis, bon, bah, pourquoi pas. J'ai passé l'entretien avec l'ancienne présidente Lise Bellan et deux membres du CE, comité exécutif, et au final, bah, j'ai eu le poste, donc j'en suis très heureux.
Tu connaissais le club canadien auparavant, tu étais déjà membre?
Alors, j'étais membre, mais pas très longtemps, je ne connaissais pas le club canadien auparavant. Quand j'ai vécu à Toronto entre 2014 et 2017. Je n'avais pas entendu parler, je ne connaissais pas.
Tu travaillais déjà dans la sphère francophone un petit
non,
peu
pas du
pas
tout.
Du tout pas tu n'évoluais pas.
C'est pour ça, je pense aussi, voilà, ouais. Que je ne connaissais pas. Je n'étais pas du tout dans la sphère francophone, mais du tout. Ouais. Parce que je ne travaillais qu'en anglais, etc.
C'est
donc il n'y avait vraiment aucun lien. Je ne connaissais que l'ancien SEO, qui était l'ARD à l'époque, Canada, où j'avais créé des liens avec l'ancienne directrice, Valérie.
Ouais.
Mais c'était tout, en fait. Et je ne connaissais pas. Et c'est vrai que je ne connaissais pas non plus le club canadien quand je suis arrivé. Donc en 2021, quand je suis rentré, par Richard Kemploch que j'ai rencontré à Québec dans le cadre de ma société, qui m'a du coup convié à venir au club canadien. J'ai pris mon adhésion, j'ai fait 2-3 événements et à la suite de ça, bah, j'ai été du coup pris à la direction générale.
Mais parle-nous un peu de ton expérience en développement d'affaires. Tu as donc monté 2 sociétés, je crois.
J'ai monté 2 sociétés. J'ai développé aussi l'entreprise de mon père, on a recréé l'entreprise de mon père en 2013 ensemble, donc j'étais dans les papiers et que j'ai repris après en la direction générale en 2017, entre 2017 et 2022.
Quelle spécialité?
C'était l'éducation.
Éducation.
C'était un centre de formation, c'est toujours un centre de formation, il a été vendu cette année d'ailleurs, et centre de formation spécialisé dans la sécurité privée, mais pas que. Après, on a développé justement, mon rôle c'était de développer. Et donc, on a développé sur plusieurs métiers comme la maçonnerie, comme l'aide à la petite enfance, etc. Donc, on a fait pas mal de choses. Et en parallèle de ça, pendant que j'étais à la direction générale de cette entreprise-là, j'ai aussi monté une autre entreprise qui était une entreprise de recrutement.
Ouais.
C'était un peu comme Randstad, donc c'est dans l'intérim, spécialisé en sécurité privée. Et que j'ai créé ça pendant la pandémie, justement, pendant qu'il y a eu la pandémie. On a dû tout fermer, j'ai fini mon business plan, je l'ai créé et ça a commencé à partir de novembre 2020 et je l'ai vendu cette année en juillet dernier, je l'ai vendu à mon associé.
Voilà. Félicitations et je crois que le cœur de cible était francophone là pour le coup.
C'est ça, ouais. Là pour le coup c'était francophone, bien sûr c'était sur le schéma français, le marché français et c'est vrai que j'ai dû manager une entreprise d'ici en France avec toutes les difficultés que ça peut avoir avec des salariés qui sont en France, avec le décalage horaire. Moi, j'ai des salariés que j'ai jamais rencontrés en fait en physique. Donc,
ouais.
C'était vraiment, vraiment compliqué. Ce côté-là m'a vraiment épuisé d'ailleurs. Et c'est une raison aussi pour laquelle j'ai décidé d'arrêter et de vendre parce que j'avais plus la force morale de continuer. Et d'ailleurs, c'est un de mes conseils à deux entrepreneurs que cette société-là, je l'ai créée non pas par passion, parce que j'ai aucune passion par rapport à l'intérim, le recrutement ou la partie sécurité, mais plus par opportunité d'affaires. Et si l'entreprise qu'on crée via l'opportunité d'affaires ne vous permet pas de survivre, donc que je ne me suis pas payé pendant 2 ans,
c'est souvent,
maintenant,
c'est, il faut quand même préciser, c'est souvent la réalité pour beaucoup d'entrepreneurs. Les deux premières années sont ça passe ou ça casse et on ne se paye pas.
C'est ça. Donc je ne me suis pas payé pendant 2 ans et c'est vrai que j'ai travaillé énormément et en plus
dans un contexte pandémique
et en plus derrière je travaillais aussi avec ma société du coup le centre de formation, donc j'avais 2 casquettes. Ouais. Donc très très fatigant. Il y avait 30 salariés d'un côté, j'en avais 5 de l'autre.
À distance
avec 2 petits enfants qui étaient juste nés. Ouais, je pense que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour réussir.
Ouais, ça ne doit pas être facile. Est-ce que pour l'anecdote, ça t'est arrivé de licencier quelqu'un par Skype?
Oui. Oui, malheureusement, bah oui, en effet. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. En effet. J'ai dû le faire parce qu'en effet, on était à distance. Donc, ça, on a dû le faire comme ça. Mais oui, en effet, j'ai fait tout à distance, que ce soit prendre des gens à distance ou en effet, même licencier des gens à distance.
Bon, blague à part, j'imagine que ces expériences t'ont formé aussi sur ta vision pour le Club Canadien de Toronto.
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu veux nous rappeler le mandat du Club Canadien en 2 mots?
Le mandat du Club Canadien, il est très clair. D'abord, le Club Canadien, ça a été créé en 86. Donc, on entame cette année la 38e année. Donc, dans 2 ans, pareil, c'est une organisation qui aura 40 ans. Donc, c'est quand même beau aussi à voir. Et avant moi, il y a eu beaucoup de monde qui sont passés dans le monde du CA en tant que direction générale ou même en tant que président. Et en fin de compte, tout ce poids historique est super important de le conserver et de parler du Club Canadien, non pas que aujourd'hui, mais aussi sur toute l'histoire en fait. Et le Club Canadien, c'est quoi? C'est d'abord un club qui permet de donner la parole, c'est une tribune, de donner la parole à l'ensemble de la communauté francophone et à tous ces leaders qui ont réussi et qui peuvent apporter de l'aide ou surtout donner leur point de vue sur des sujets précis, des grandes thématiques à l'ensemble de la communauté francophone de Toronto et souvent même au-delà de Toronto, puisqu'il y a des gens qui habitent en dehors de Toronto qui viennent au Club Canadien pour chercher du réseautage. Et justement, on parle de réseautage, c'est aussi ça le format du club, c'est d'aller chercher et mettre en relation nos membres, que ce soit les membres corporatifs ou les membres individuels, pour qu'ils viennent nous voir et surtout qu'ils trouvent quelque chose qu'ils cherchent. Souvent, ça peut être un investisseur, ça peut être des clients, ça peut être un travail simplement, ou même simplement des personnes sur lesquelles ils peuvent créer, pas à l'instant T, mais plus tard, des liens. Ouais. Et en fin de compte, tout ça fait que le club est un point d'ancrage un petit peu pour cette communauté francophone. Viens nous voir et après, nous, on peut dispatcher grâce à l'ensemble de nos partenaires. Normalement, quelqu'un qui va chercher quelque chose chez nous, je peux lui donner au moins un contact pour qu'ils trouvent quelque chose.
Formé en 1986, plus de 300 membres et un des organismes francophones les plus prestigieux de la ville, le Club Canadien, c'est clubcanadien.ca pour en savoir plus évidemment. Il y a des associations, il y a une forme d'adhésion différente, j'imagine.
Oui, en effet. Cette année, on a fait un grand changement. Geneviève Grenier, notre présidente, a fait une déclaration que c'était lors du lancement le 31 août du Club Canadien, cette fameuse 38e saison, où pour la première fois, on a mis un prix défiant toute concurrence pour les étudiants à 10$. Donc 10$ pour l'année, ils deviennent membres. Et après, on a aussi un prix par événement à 35$. Tout ça pour favoriser, en fin de compte, les étudiants à venir nous voir et à explorer un petit peu le côté réseautage. Car quand on est étudiant, on est souvent focalisé sur la partie des études. Et une fois qu'on est diplômé, on se dit « Ah, maintenant, faut que je fasse quelque chose. Faut que j'aille voir des gens, il faut que j'aille les rencontrer. » Sauf que j'ai pas appris pendant mes études à aller me présenter à des personnes qui ont souvent des postes assez prestigieux. J'ai pas appris à porter ma voix, à être ma marque, parce que chacun d'entre nous est une marque. Et le Club Canadien aujourd'hui veut proposer justement à ces étudiants-là de les accompagner, de les aider à venir nous voir et à progresser dans ces démarches-là, d'aller prospecter, d'aller se démarquer et parler à des personnes pour dire voilà, moi je suis Monsieur X, je suis un étudiant aujourd'hui, dans 2 ans ou cette année je suis diplômé et je voudrais faire ça, je voudrais avoir un stage, je voudrais avoir un travail ou je veux simplement passer un temps avec vous, est-ce que je peux le faire? Voilà, en fin de compte, le Club Canadien est là aussi pour ça, pour développer ces étudiants-là avec tous nos partenaires, comme comme l'UOF, comme le Collège Boréal, comme le Collège de la Cité, tous les partenaires de l'éducation, ouais, en fin de compte, nous encouragent à le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le club a décidé pour la première fois de faire, ok, on va faire, on va mettre les étudiants en point d'orgue et on offre ce prix à 10$.
Ça, c'est tout à votre honneur, une belle initiative pour ouvrir effectivement le club canadien, bien au-delà des entrepreneurs, sur la communauté au sens large et sur la relève.
Bien sûr.
On va se laisser puisque l'heure est déjà terminée, Alexis. L'heure a filé très très vite. Ah, tu as choisi un titre que j'aime beaucoup, très très beau titre pour terminer cette émission avec Nino Ferrer, Le Sud. Quelques mots pour nous expliquer pourquoi.
Nino Ferrer, c'est simple, c'était une des premières chansons que j'ai écoutées et apprises à l'école. On était en primaire et en fin de compte, c'est des chansons qui marquent. Donc tout à l'heure, on parlait justement de personnes un peu mentors qui te marquent. Je m'en rappelle encore de ce prof de musique qui nous faisait écouter pour la première fois des chansons qui avaient la valeur. Et Nino Ferrer et Le Sud est une de ces chansons-là. Et 30 ans plus tard, je l'écoute encore.
Et on l'écoute sur les ondes de choc tout de suite. Nino Ferrer, c'était Alexis Maquin, mon invité, dans Plus Proche de Vous. Merci beaucoup, Alexis,
de t'être prêté
à ce portrait en musique.
Le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été.